CFAQ vous présente le condensé juridique. Un condensé du meilleur des chroniques de vulgarisation juridique présentées par les étudiantes et étudiants de la Faculté de droit, diffusé dans le show du retour.
Le Touski!
Le condensé juridique, l'émission parfaite pour connaître et comprendre vos droits. CFAQ 88.3, l'essence de l'information.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette diffusion d'informations juridiques dans le cadre d'un projet de collaboration entre le Réseau national d'étudiants et étudiantes pro bono et la radio CFAQ. Le but de ce projet est de faciliter l'accès à l'information juridique dans la communauté grâce à la radiodiffusion de plusieurs capsules. Il est toutefois à noter qu'il ne s'agit pas de conseils juridiques pour des situations spécifiques, mais plutôt d'informations générales qui s'adressent à tout le monde. Alors n'hésitez surtout pas à communiquer avec un avocat ou une avocate en cas de besoin.
Ben, on pourrait quasiment.
Ouais, ça se fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette diffusion d'informations juridiques dans le cadre d'un projet de collaboration entre le Réseau national d'étudiants et étudiantes pro bono et la radio CFAQ. Le but de ce projet est de faciliter l'accès à l'information juridique dans la communauté grâce à la radiodiffusion de plusieurs capsules. Il est toutefois à noter qu'il ne s'agit pas de conseils juridiques pour des situations spécifiques, mais plutôt d'informations générales qui s'adressent à tout le monde. Alors n'hésitez surtout pas à communiquer avec un avocat ou une avocate en cas de besoin.
C'est parti!
Ainsi, au cours des prochains mois à venir, nous aurons la chance de vous offrir du contenu juridique en ce qui touche de près et de loin au droit de la famille et au Québec, que ce soit en ce qui a trait au mariage, au divorce, à l'adoption, à la pension alimentaire ou même à la résidence familiale. Notre équipe de diffusion composée de Vincent Bellil, Annelise Descaillettes, Sarah Labelle ainsi que moi-même, Claudia Fortin, nous avons préparé une foule de contenu pour nos chères auditrices et nos chers auditeurs. Je suis aujourd'hui en compagnie de mon collègue Vincent pour cette première capsule et nous aurons la chance de vous donner un bel avant-goût du droit familial avec pour premier sujet l'union conjugale au Québec. Bonjour Vincent.
Bonjour Claudia.
Est-ce que tu pourrais nous dire un peu en gros c'est quoi l'union conjugale?
Oui, bien sûr. En fait, l'union conjugale, ça concerne tous les types d'union entre deux personnes. Donc, on parle vraiment du couple en tant que tel. Alors, il faut savoir qu'il existe trois types d'union conjugale au Québec. On retrouve d'abord le mariage, qui est également présent dans le reste des provinces, contrairement à l'union civile, qui est une union unique et spécifique au Québec. En effet, il s'agit vraiment d'une des créations du droit civil qui est unique à notre province. On doit également mentionner le type d'union le plus courant et le plus habituel, soit l'union de fait, donc vraiment quand on parle de conjoint de fait. Au fil des capsules qui vont suivre, nous allons vous illustrer les caractéristiques spécifiques de chacun de ces types d'union, ainsi que les droits et les obligations qui leur sont rattachés.
Merci beaucoup, Vincent. Et maintenant, est-ce que tu pourrais un peu nous montrer à quoi ça ressemble au Québec, tout ça?
Oui, certainement. Justement, nous allons enchaîner avec quelques statistiques qui vont permettre de dresser un bref aperçu de la situation socio-démographique conjugale dans la province pour mieux comprendre. Donc, il faut savoir que, selon l'Institut de la statistique du Québec, on constate une diminution considérable des mariages depuis les années 70. Par considérable, on entend une diminution de plus de la moitié de ces mariages. En effet, on parlait de près de 50 000 mariages en 1970, tandis qu'en 2018, on a enregistré environ 22 000 mariages, tous sexes confondus.
Vraiment intéressant, en effet, Vincent. Mais justement, là, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu d'où provient ce changement?
Oui, ben, en fait, on pourrait alors se demander si cette diminution est due à un plus grand intérêt pour l'union civile qui existe depuis le début des années 2000, mais ça ne semblerait pas être véritablement le cas. En effet, selon les données de l'Institut de la statistique, il n'y aurait eu que 203 unions civiles au Québec en 2018.
En effet, c'est vraiment peu, Vincent.
Oui, et c'est pour cela que la réponse résiderait plutôt dans l'augmentation de la proportion des couples qui vivent aujourd'hui en union de fait, soit un régime qui est plus libre que ses homologues. Si l'on comptait à peine 8% des couples qui vivaient en union de fait en 1981, cette proportion est d'aujourd'hui de près de 40 %. Il s'agit même d'une des plus grandes proportions observées au pays, avec presque le double de la moyenne nationale. Cette perte d'intérêt pour les couples québécois de s'unir par les liens du mariage pourrait peut-être également s'expliquer par la perte de l'influence de l'Église depuis les années 70. Si autrefois le législateur pouvait transposer des valeurs plus religieuses à travers ses lois, ce n'est aujourd'hui évidemment plus le cas. Et d'ailleurs, on peut voir cette volonté d'un État plus laïque qui est également réitérée, par exemple, dans la Charte des droits et libertés de la personne qui a été adoptée en 1975.
OK, donc Vincent, si je comprends bien, on voit vraiment à quel point le droit de la famille au Québec pourrait avoir changé à cause de l'Église.
Effectivement, et pour illustrer d'autres de ces changements, on peut également penser au mariage civil. Officiellement créé en 1969 en réponse à la Révolution tranquille, le mariage civil représente aujourd'hui près de 64% des mariages, alors que cette proportion n'était que de 2% à l'époque. C'est également à la même année qu'on commence tranquillement à voir les premières ouvertures vers la décriminalisation de l'accès à l'avortement et à la contraception, ainsi que pour les comportements homosexuels.
On peut donc effectivement remarquer d'importants changements sur le plan social.
On a juste...
Attends, c'est ça qu'on...
Skipper un petit peu. On va reprendre où est-ce que j'étais. Évidemment...
Oh, excuse, mon Dieu. Ouais, vas-y.
Évidemment, nous étions encore bien loin de la réalité d'aujourd'hui et nous allons en reparler plus tard, notamment pour illustrer la raison d'être de l'union civile qui a été créée pour pallier à l'interdiction du mariage homosexuel à l'époque.
Ce sont là, effectivement, d'importants changements sociaux. Attends. C'est vraiment, effectivement, d'importants changements sur le plan social, Vincent.
Oui, et dans cette optique de tenir compte des réalités sociales qui évoluent avec le temps, le législateur québécois a une première fois tenu une importante réforme sur le droit de la famille en 1980, tout en continuant de mettre à jour régulièrement ses lois. Et de son côté, à titre d'exemple, le gouvernement fédéral a annoncé une importante mise à jour en ce qui concerne la loi sur le divorce qui entrera en vigueur en 2021. Donc, en résumé, le droit de la famille, c'est un droit qui est porté à évoluer et on peut s'attendre à ce qu'il soit continuellement mis à jour pour tenir compte des réalités des citoyens et des citoyennes. Nous allons en reparler également un peu plus tard lorsque nous allons aborder les consultations publiques qui sont tenues en ce qui concerne le régime conjugal de l'union de fait au Québec.
Merci beaucoup, Vincent, pour toutes ces informations qui clôt notre première capsule d'information sur le droit de la famille au Québec.
Oh, merci à toi, Claudia.
Nous remercions une fois de plus la Radio CIFAC dans ce projet de collaboration avec le Réseau national d'étudiants pro bono et nous invitons nos auditeurs à rester à l'affût pour la prochaine capsule qui concerne les conjoints de fait.
pas souvent de la maison. Aller-retour dans le cabanon, à spotter les traces dans le plafond. Ça prendrait des corbes à booster, un towing pour te jacker. Une winch pour te ramener dans le décor, te sortir de ton angle mort. Par-dessus le top, t'es plus capable d'ouvrir les portes. Ça te prendrait quelqu'un pour souffler toute la marde que t'as pas pelletée. Une wish pour te ramener dans le décor.
Bienvenue à cette deuxième capsule d'information juridique. Je suis aujourd'hui en compagnie de ma collègue Claudia pour cette capsule qui traitera des conjoints de fait au Québec. Bonjour Claudia.
Bonjour Vincent.
Au Québec, le droit de la famille amène plusieurs particularités qui peuvent se distinguer d'ailleurs au Canada. La question de la place du conjoint de fait a été amenée à plusieurs reprises au travers des débats québécois, que ce soit des différents droits que ces couples ont recours, le pourcentage qu'ils occupent dans la société, ainsi que certains désavantages. Il est de mise de comprendre la place des conjoints de fait dans notre société.
Oui, en effet, Vincent, et on aura aujourd'hui la chance d'en parler ensemble.
Donc, Claudia, on mentionne beaucoup le terme conjoint de fait, mais en fait, comment pourrions-nous décrire ce statut?
Oui, Vincent, en fait, ce qui serait d'abord important de comprendre, c'est vraiment de savoir c'est quand est-ce qu'un couple peut être considéré comme conjoint de fait. Puis on peut aussi voir que le législateur est un peu muet, puis on peut parler aussi d'un an pour les revenus d'impôt. Puis d'ailleurs, au Québec, la proportion qui se retrouve à être conjoint de fait, en fait, c'est un couple sur trois, Vincent. Donc c'est quand même une grande partie de la population quand même. Puis en gros, là, rapidement, là, pour être considéré comme conjoint de fait au Québec, il faut que le couple aient vécu un certain nombre de temps ensemble ou bien qu'ils aient eu un enfant ensemble. Puis, c'est intéressant de voir que pour certaines provinces, les critères s'avèrent parfois différents et les droits venant avec ce statut peuvent l'être également aussi, Vincent.
Parlant de ces différences, pourrais-tu nous décrire un peu les différences avec les autres provinces?
Bien, par exemple, Vincent, en Colombie-Britannique, les critères établis sont la cohabitation pendant 2 ans ou, un peu comme au Québec, avoir un enfant dans l'Union. Mais vraiment, l'autre particularité ici qui est bien importante, c'est que dans cette province, en Colombie-Britannique, le droit au partage des biens dans l'Union est inclus. Puis en fait, Vincent, là, ça, c'est vraiment une différence majeure avec le Québec parce que ce droit-là, il n'est pas inclus lorsqu'il y a séparation du concubinage, Vincent.
Et quel genre de différence ça peut amener du côté juridique si on compare, par exemple, avec le mariage ou même l'union civile?
Premièrement, ce qui est vraiment important de savoir, c'est qu'au Québec, l'union du conjoint de fait ne vient pas automatiquement avec plusieurs droits. Notamment, la protection de la résidence familiale n'est pas inclue. Alors, en gros, là, Vincent, ça signifie que si seulement l'un des conjoints est propriétaire ou bien locataire du domicile, quand il y a séparation, l'autre ne pourra pas avoir de droit contre l'autre conjoint. Aussi, là, pour d'autres droits, le partage des biens ne fait pas partie non plus des droits des conjoints de fait. Alors, parfois, là, Vincent, ça peut créer un certain déséquilibre lorsqu'il y a séparation. Même chose pour tout ce qui est du côté pension alimentaire, prestations compensatoires. Rien n'oblige, si un conjoint est plus fortuné, de compenser l'autre après le terme de l'union. Puis encore une fois, ça peut créer certains déséquilibres. Puis un autre droit qui ne serait pas inclus, ça serait tout ce qui est à propos de l'héritage. Si l'un des conjoints de fait décède, en fait, Vincent, la seule chose, la seule manière que l'autre conjoint pourrait hériter des biens, c'est si, par exemple, l'autre personne l'avait déjà placé sur son testament, Vincent.
Merci, Claudia, pour ces petites distinctions. Donc, en parlant de distinctions sur le plan juridique, pourrais-tu nous donner un exemple de jugement qui a fait couler beaucoup d'encre dans laquelle la situation des conjoints de fait a amené certains questionnements?
Oui, en fait, là, pour illustrer clairement cette situation, il y a le célèbre arrêt Eric contre Lola qui s'est quand même rendu en Cour suprême du Canada. Puis vraiment, cet arrêt très pertinent dans cette situation-ci. Rapidement, là, ça mettait en cause 2 conjoints de fait, justement, dont notamment les supposés droits semblaient être flous, puis ça l'a vraiment amené le débat sur la table au Québec. Puis cette décision mettant en lumière que certains articles du Code civil du Québec traitant justement de pension alimentaire, de séparation des biens, en fait, Vincent, ça l'excluait les conjoints de fait. Puis du côté de Lola, elle essayait donc de faire valoir le point qu'au sens de la charte, ça pouvait être discriminatoire envers les couples qui avaient le statut de conjoint de fait. Puis la question, Vincent, c'était vraiment de savoir si, en effet, la loi, elle était discriminatoire envers les conjoints de fait. Puis, comme mentionné, le dossier s'est quand même rendu en Cour suprême, donc ça l'a montré que vraiment, c'était difficile de trancher sur la question. Puis finalement, les juges, ils sont arrivés à la conclusion que oui, il y a une certaine discrimination pour les conjoints de fait, mais que cette dite discrimination-là, elle peut être justifiée au sens de la loi. Puis les juges mentionnent que le libre choix, en fait, ça devrait être laissé à ses conjoints, aux conjoints de fait, qui peuvent décider si leur union, comme ils le souhaitent. Puis ça met vraiment en lumière les disparités, justement, du système législatif québécois, qui accorde en effet moins de droits aux conjoints de fait, mais Vincent, ça rend pas la loi invalide pour autant.
Merci beaucoup, Claudia. Donc, quel serait alors le principal argument considéré dans une union de conjoints de fait?
En fait, là, Vincent, le législateur québécois, il a mis l'emphase sur l'autonomie que les personnes ont dans cette union. Si les conjoints ont le désir d'avoir une certaine entente sur la séparation des choses lors d'une possible séparation, ça peut devenir possible grâce à un contrat de vie commune. Puis vraiment, cette alternative ne force pas les conjoints de fait à s'unir s'ils ne le désirent pas, mais ça leur permet d'avoir vraiment une entente claire si jamais il y a une séparation, Vincent.
Il y a une commission sur le droit de la famille qui est d'ailleurs en cours présentement. Pourrais-tu m'en parler un peu, Claudia?
Oui, en effet, il y a une commission de consultation citoyenne. Puis en fait, là, c'est en partenariat avec la Chambre des notaires du Québec. Ça s'intéresse vraiment à savoir si les lois en matière de droit de la famille ne sont peut-être plus tout à fait en phase avec le vécu des couples et des familles au Québec. C'est vraiment une question qui se pose ici dans la province. Puis selon les faits saillants qui en ressortent, on fait mention que l'un des conjoints de fait est susceptible de subir justement des désavantages économiques comme on en a un petit peu parlé sans pouvoir en appeler au droit de la famille. Puis c'est là vraiment le point clé qui a été soulevé dans l'arrêt de la Cour suprême. On propose des systèmes de protection pour les conjoints de fait qui se retrouvent justement plus vulnérables actuellement, Vincent.
Merci beaucoup, Claudia, pour toutes ces informations qui met fin à notre première capsule d'information sur le droit de la famille. Merci beaucoup, Claudia, pour toutes ces informations qui met fin à notre capsule d'information sur le droit de la famille au Québec.
Merci également à toi, Vincent.
Donc, nous remercions une fois de plus la radio CFAQ dans ce projet de collaboration avec le Réseau national étudiantes et étudiants pro bono. Et nous invitons nos auditeurs à rester à l'affût pour la prochaine capsule qui concerne le mariage et ses procédures.
Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à cette troisième capsule. Je me présente Annelise et je suis en compagnie de ma collègue Sarah, et nous aurons la chance de vous donner un bel avant-goût du droit familial concernant le mariage et ses procédures. Planifier un mariage peut être chose bien compliquée, puisque plusieurs formalités s'imposent quant à la préparation et à la cérémonie. Il convient donc de vous informer sur les principales. Bonjour Sarah.
Bonjour Annelise.
Pour bien commencer, pourrais-tu nous éclairer un peu en nous expliquant si le mariage est de compétence provinciale ou bien fédérale?
Bien sûr. Ce qu'il y a de particulier au Canada, c'est que le mariage est de compétence partagée entre le fédéral et le provincial. À vrai dire, le fédéral s'occupe du mariage lui-même, tel que les conditions de fond pour pouvoir se marier. Il s'occupe également du divorce, alors que le provincial, de son côté, s'occupe de la célébration du mariage, par exemple des critères entourant le déroulement de la cérémonie. La différence entre le mariage et sa cérémonie peut paraître bien subtile, mais il convient d'y porter une attention particulière, car il arrive que ce ne soit pas le même gouvernement qui en prend charge, donc qu'il faille s'adresser à un ou bien à l'autre.
Pourrais-tu nous parler des conditions à respecter pour se marier?
Certainement. Globalement, il existe trois conditions de base à respecter avant de se marier. Avant tout, je crois qu'il est important de mentionner que, contrairement à ce que plusieurs personnes pourraient penser, le mariage ne s'établit pas par le fait que deux personnes vivent ensemble depuis plusieurs années, mais plutôt par le fait que le mariage devient officiel par une cérémonie précise. C'est rien de moins qu'un événement formel. Je me permets de faire une petite parenthèse que ces conditions s'appliqueront uniquement pour le mariage, puisque l'union civile comporte quelques différences qui seront apportées prochainement.
La première condition concerne l'âge des mariés, c'est bien cela?
Oui, exactement. Pour se marier, les futurs époux doivent être âgés minimalement de 16 ans. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, bien que l'âge de la majorité soit établi à 18 ans, il est possible de se marier à partir de l'âge de 16 ans. Cependant, lorsqu'au moins une des deux personnes est mineure, l'autorisation du tribunal est nécessaire et le tuteur du mineur, bien souvent son parent, peut donner son avis au tribunal.
On exige aussi un statut de monogamie. Qu'est-ce que c'est exactement?
En effet, la monogamie est le fait qu'un homme ou une femme ait un seul conjoint ou conjointe en même temps. Il est donc interdit qu'une des deux personnes soit liée dans un autre mariage ou dans une autre relation. Cela signifie que si une personne désire se marier à une deuxième reprise, elle doit donc obligatoirement être célibataire, divorcée ou veuve, puisque le divorce est l'unique moyen de mettre fin officiellement au mariage.
Enfin, on parle du consentement à se marier. Peux-tu nous en parler davantage?
Bien sûr. La troisième condition exige que les futurs mariés donnent un consentement libre et éclairé. On entend par consentement libre le fait que la manifestation de l'accord à se marier ne soit pas accompagnée de contraintes ou de menaces qui pourraient forcer l'une des deux personnes à se marier. Et on entend par consentement éclairé le fait que les futurs mariés comprennent bien les effets de l'engagement du mariage. Dans le cas où le consentement n'est pas libre et éclairé, il est possible de s'opposer au mariage ou en demander son annulation. Cette demande peut provenir de l'un des époux ou bien d'un tiers qui constate cette problématique. Le mariage forcé, aussi appelé mariage arrangé, est l'un des exemples d'un consentement qui n'est pas libre et éclairé. Il faut convenir que l'annulation du mariage est possible, mais bien rare.
Une fois les trois conditions satisfaites, quelles sont les possibilités qui s'offrent au mari quant à la cérémonie du mariage?
Il est possible de distinguer deux types de mariage. En effet, les futurs époux doivent choisir entre une cérémonie civile ou bien religieuse. Au Québec, il y a davantage de célébrations civiles depuis les dernières décennies. La principale différence entre les deux types de mariage se constate au niveau du célébrant et du lieu de la célébration.
Qui peut être célébrant d'un mariage?
D'abord, il convient d'établir que le rôle du célébrant est de s'assurer que les futurs mariés répondent aux conditions dont nous avons eu l'occasion de parler précédemment. Pour un couple qui opte pour une cérémonie civile, il doit choisir un célébrant qui répond à des critères bien précis. À titre d'exemple, un célébrant compétent peut être un greffier, un notaire, un maire, un conseiller municipal ou bien toute personne qui fait la demande au directeur de l'état civil par un formulaire qu'il doit remplir. La personne qui fait la demande au directeur peut être un ami ou un membre de la famille. Par contre, il est à noter que l'autorisation pour être célébrant ne vaut que pour le mariage en question. Les cérémonies religieuses, pour leur part, sont célébrées par un ministre du culte, soit une personne qui exerce des fonctions sacrées. Cette personne est autorisée à célébrer des mariages par sa religion, mais elle doit être aussi autorisée par le directeur de l'état civil.
Pourrais-tu nous donner une idée globale des formalités à respecter lors de la cérémonie du mariage?
Absolument. Le mariage doit être célébré en présence d'au moins deux témoins. Puis, le célébrant doit obligatoirement faire la lecture, soit en français ou en anglais, des articles de loi sur les droits et les obligations des époux. Le mariage est accompagné d'une déclaration de mariage. Ça constitue la preuve écrite du mariage. Elle est signée par les deux époux, par les deux témoins et par le célébrant, et elle doit être transmise au directeur de l'état civil dans les 30 jours suivant la cérémonie. Puis, le directeur de l'état civil émet l'acte officiel de mariage.
Il paraît que le mariage implique un régime matrimonial. Est-ce vrai?
C'est effectivement le cas. Il est même obligatoire. Les futurs époux seront nés à choisir un régime matrimonial. Dans les faits, il en existe trois différents. Le premier est le régime de la société d'acquêt. Il est le régime le plus populaire et le régime par défaut depuis le 1er juillet 1970. C'est-à-dire que ce sera ce régime si les époux n'en désignent aucun. Ce régime sépare les biens en deux catégories, soit les biens propres qui demeurent à chacun et les biens acquis qui sont accumulés pendant le mariage. Le deuxième est le régime de la séparation des biens. Ce régime permet aux époux d'être davantage indépendants puisqu'il n'y aura pas de partage des biens accumulés pendant le mariage en cas de divorce, à l'exception des biens qui font partie du patrimoine familial. Enfin, il y a le régime de la communauté de biens. Il s'agissait du régime matrimonial par défaut avant le 1er juillet 1970. Quelques couples qui se sont mariés avant cette date connaissent encore ce régime aujourd'hui, mais disons que ce n'est plus vraiment d'actualité depuis la réforme de 1980 qui visait à offrir des protections à la femme au sein d'un couple. Nous aurons la chance de développer davantage sur ces trois régimes lors d'une prochaine capsule.
Merci beaucoup, Sarah, pour toutes ces informations qui clôt notre capsule d'informations sur le droit de la famille au Québec.
Ça me fait un grand plaisir.
Nous remercions encore une fois de plus la radio CEFAC dans ce projet de collaboration avec le Réseau national d'étudiants et d'étudiantes pro bono et nous vous invitons, nos auditeurs, à rester à l'affût pour la prochaine capsule qui concerne l'union civile.
C'est parti!
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette quatrième capsule d'information juridique. Je me présente, Sarah, et je suis accompagnée de ma collègue Annelise. Aujourd'hui, en lien avec le droit de la famille, nous allons aborder la notion de l'union civile au Québec. Bonjour, Annelise.
Bonjour, Sarah. D'abord, au Québec, un couple peut décider de s'unir de plusieurs façons. Il y a les couples qui demeurent conjoints de fait, ceux qui décident d'opter pour le mariage, et depuis 2002, certains peuvent décider d'opter pour l'union civile, qui est une création du Québec. C'est donc pour ce concept que nous allons approfondir aujourd'hui afin d'en cerner ses spécificités.
Parfait. Alors, pourrais-tu nous dire qu'est-ce que l'union civile?
L'union civile présente les mêmes conditions largement que le mariage. On peut donc considérer que les obligations et les droits vont demeurer sensiblement les mêmes. C'est la même chose pour les conditions de base, alors un consentement qui se veut libre et éclairé entre les deux personnes. Aussi, ne pas avoir un mariage antérieur qui ne serait pas encore dissous. On parlerait alors de monogamie qui est interdit au Canada et ne pas s'unir civilement avec quelqu'un de prohibé, donc pas quelqu'un ayant un lien de sang par exemple. Les formalités demeurent aussi les mêmes que le mariage classique.
Pourrais-tu nous dire un peu dans quel contexte l'union civile est-elle arrivée?
Bien sûr, auparavant il n'était pas possible pour les conjoints de fait de même sexe de se marier, c'est donc pour cela qu'en 2002, le Québec a créé l'union civile afin de permettre une certaine alternative pour les couples homosexuels. En effet, la législation en matière de mariage révèle du champ de compétence du gouvernement fédéral en vertu de la loi constitutionnelle de 1867, et c'est pour cette raison que le gouvernement provincial n'a pas directement changé la loi concernant le mariage. Toutefois, cette distinction n'est plus d'actualité. Depuis 2005, le mariage entre personnes homosexuelles est possible. En effet, en réponse aux arrêts renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe et Alpern contre Canada, la Cour suprême du Canada a jugé les dispositions qui interdisait le mariage entre deux personnes du même sexe inconstitutionnel.
On dit depuis le début de l'union civile et le mariage. On dit depuis le début que l'union civile et le mariage se ressemblent beaucoup. Alors, en quoi l'union civile se distingue-t-elle du mariage?
Tout d'abord, on peut noter quelques particularités, telles que l'âge minimum pour s'unir civilement, qui est fixé à 18 ans, tandis que le mariage, c'est à 16 ans lorsqu'on a une autorisation du tribunal. Également, l'union civile n'est souvent pas reconnue à l'extérieur du Québec, contrairement au mariage. Il s'agit donc d'un aspect important à ne pas négliger pour un couple du Québec qui souhaite aller vivre ailleurs. De plus, en cas de rupture, la procédure n'est pas la même pour les deux types d'union. Autrement dit, pour mettre fin au mariage, on doit procéder par le divorce et suivre les formalités qui y sont associées pour mettre fin à l'union civile. Et pour mettre fin à l'union civile, deux options sont possibles. On peut procéder soit par une déclaration commune devant notaire ou soit par la dissolution de l'union civile par le tribunal lorsqu'il y a présence d'enfants dans les parages. C'est cette voie que les parties devront emprunter. Toutes ces procédures seront abordées en détail au cours d'une prochaine capsule.
Pourrais-tu nous dire quelle proportion représente l'union civile au Québec?
Bien sûr. Bien qu'il s'agisse d'une création particulière du Québec, les Québécois sont peu nombreux à opter pour l'union civile. Le nombre d'unions civiles a été le plus élevé en 2003, soit lorsque l'union civile a été possible en 2002, avec un total de 342 unions, dont 274 étaient des gens de même sexe. Ensuite, le fait qu'on a autorisé le mariage entre personnes de même sexe explique la diminution du nombre d'unions civiles au fil des années. En 2019, il y a eu un total de 207 unions civiles, dont 173 conjoints de sexe opposé et 34 conjoints de même sexe. Bref, en comparaison au mariage, annuellement, l'union civile ne représente que 1% des unions.
Les personnes unies civilement peuvent-elles se marier par la suite?
Tout à fait. Il y a ce que l'on appelle une dissolution de l'union civile par le mariage. Toutefois, il ne sera plus question des effets de l'union civile entre autres, quant aux obligations et aux droits des époux et le régime matrimonial légal. On parle plutôt des effets du mariage, et c'est à partir de la date où l'union civile est survenue.
Merci beaucoup, Annelise, pour toutes ces informations qui clôt notre quatrième capsule d'informations sur le droit de la famille au Québec.
Ça m'a fait plaisir.
Nous remercions une fois de plus la radio CEFAC dans ce projet de collaboration avec le Réseau national d'étudiants pro bono et nous invitons nos auditeurs à rester à l'affût pour la prochaine capsule qui concerne la résidence familiale.
J'ai le souffle coupé par le vent et les coups.
C'est parti.
Bienvenue à cette cinquième capsule d'information juridique. Je me présente Vincent et je suis accompagné de ma collègue Annelise. Bonjour Annelise.
Bonjour Vincent.
Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble une autre notion importante en matière de droit de la famille, soit celle de la notion de résidence familiale. Et pour commencer, Annelise, pourrais-tu nous dire un peu qu'est-ce qu'on entend par résidence familiale et à qui ça s'applique, ça?
Pour commencer, il s'agit du lieu où le couple demeure et exerce ses principales activités. Il est à noter que celui-ci n'a d'effet que pour les conjoints mariés ou unicivilement. Ainsi, on ne doit pas en tenir compte en ce qui concerne le troisième type d'union vu précédemment, soit les conjoints de fait.
OK. Et est-ce que c'est possible d'avoir plusieurs résidences familiales?
En fait, il existe divers types de résidences qui peuvent être considérées comme étant une résidence familiale. Toutefois, les personnes mariées ou unies civilement ne peuvent qu'en avoir qu'une seule. Par exemple, il peut s'agir d'un condo, d'un appartement ou d'une maison dont l'un des deux conjoints est propriétaire ou même locataire. Tous les autres types de résidences vont alors être considérés comme étant des résidences secondaires, par exemple un chalet ou une maison de vacances.
Parfait, Annelise. Et pourrais-tu nous donner un exemple pour illustrer le concept, en fait, de la résidence familiale?
On peut d'abord penser à la protection des meubles qui servent à l'usage de la résidence familiale, puisqu'en effet, la personne va devoir obtenir le consentement de l'autre conjoint pour aliéner, c'est-à-dire vendre ou céder, hypothéquer ou même transporter les meubles visés hors de la résidence.
Qu'arrive-t-il si, par exemple, un conjoint vend un meuble qui est utile à la résidence sans le consentement de l'autre conjoint?
En fait, en ce qui concerne les meubles, le législateur prévoit que le conjoint lésé peut demander l'annulation de l'acte dans le cas où celui-ci ne l'a pas ratifié. Par ratifier, on entend un acte qui nous permet de conclure qu'il y a eu consentement, qu'il soit explicite ou tacite, qui pourrait, à titre d'exemple, faire ses boîtes pour déménager. Cependant, s'il s'agit d'un acte qui a été conclu avec quelqu'un de bonne foi et qui n'était pas gratuit, l'annulation ne sera pas possible, telle que précisée par le Code civil du Québec aux articles 401 et 402.
Annelise, qu'est-ce qui permet de dire s'il s'agit d'une résidence familiale?
Celle-ci est possible notamment grâce à la déclaration de la résidence familiale. Il s'agit d'un document qu'on dépose au bureau de la publicité des droits qui déclare que l'immeuble sert de résidence familiale. Ainsi, le conjoint propriétaire de la résidence ne peut pas vendre, donner, louer ou accorder des droits sur la résidence familiale à autrui sans le consentement de son conjoint. Puis, la signature d'un seul des conjoints est suffisante pour que le document soit valide. De plus, il n'est pas obligatoire que l'autre conjoint soit avisé qu'une telle déclaration a été enregistrée. Enfin, il est possible de la faire dans le contrat d'achat de la résidence ou même en tout temps.
Alors, Annelise, si j'ai bien compris, s'il y a une déclaration de la résidence familiale, le conjoint propriétaire ne peut pas faire ce qu'il veut lorsqu'il n'a pas le consentement de l'autre conjoint pour tout type d'acte, en fait.
En fait, le droit du conjoint propriétaire de louer, vendre, hypothéquer ou accorder un quelconque droit va dépendre du type d'immeuble qui sert de résidence familiale. C'est-à-dire, s'il est question d'une résidence de 1 à 4 logements, tel qu'un triplex, le conjoint propriétaire ne pourra pas ni le vendre, ni l'hypothéquer ou accorder un droit, ni le louer sans le consentement de l'autre conjoint, selon l'article 404 du Code civil du Québec. Quant à une résidence de 5 logements ou plus, c'est la même règle qui s'applique, excepté que le conjoint propriétaire peut, dans ce cas, hypothéquer l'immeuble ou accorder un droit sans l'accord de l'autre conjoint, selon l'article 405 du Code civil du Québec. Puis, s'il s'agit d'un logement loué, le conjoint propriétaire ne peut sous-louer, céder le droit ou même mettre fin au bail de la résidence familiale sans le consentement de l'autre conjoint.
Quels seraient les recours possibles si le conjoint propriétaire agit sans le consentement de l'autre conjoint dans un tel contexte?
D'abord, il y a le même recours que celui de la protection des meubles, c'est-à-dire l'annulation de l'acte, à condition que le conjoint ne l'a pas ratifié, selon l'article 404 et 405, alinéa 2 du Code civil du Québec. Puis, pour la résidence de 5 logements ou plus, il est possible pour le conjoint qui n'a pas donné son accord d'exiger de l'acheteur qui lui loue le lieu qui servait de résidence familiale. De plus, le conjoint qui n'a pas consenti et qui a subi un préjudice par la faute de son conjoint ou d'un tiers pourrait obtenir des dommages-intérêts. Enfin, le délai pour se poursuivre entre conjoints en justice entre conjoints commence à partir du moment où ils cessent de faire vie commune.
Donc, Annelise, on voit vraiment des protections pour les conjoints. Et pourrais-tu nous dire un peu depuis quand ce système de protection existe au Québec?
En fait, avant 1964, la femme mariée était considérée comme étant incapable juridiquement, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas passer aucun acte juridique, comme le fait de signer un contrat, car la signature de son mari était nécessaire pour que le contrat en question soit valide. Ainsi, c'était l'homme qui gérait tout, il pouvait passer des actes juridiques sans problème et sa femme n'avait pas son mot à dire. Mais depuis la réforme de 1980, Mais c'est depuis la réforme de 1980 que le législateur a instauré des mesures de protection et un système d'attribution quant à la résidence familiale qui implique la notion d'égalité entre les époux en ce qui concerne la gestion des biens dans la résidence. C'est ce qui fait que désormais, un conjoint propriétaire ne peut agir sans le consentement de l'autre conjoint lorsqu'il s'agit de la résidence familiale.
Merci beaucoup, Annelise, pour toutes ces informations qui clôt la capsule d'aujourd'hui sur la résidence familiale.
Le plaisir est pour moi.
Donc, nous remercions une fois de plus la radio CEFAC dans ce projet de collaboration avec le réseau, national étudiante et étudiants pro bono. Et nous invitons nos auditeurs à rester à l'affût pour les prochaines capsules d'informations juridiques. À bientôt!